La paracha de Vayigash nous raconte les retrouvailles de Yosef et de ses frères, particulièrement celle de Yosef et de son frère chéri Binyamin. Et plus tard, vers la fin de la paracha, nous pouvons lire aussi le récit des retrouvailles de Yosef et de son père Yaakov. Au sujet des retrouvailles de Yosef et de Binyamin, le verset nous dit « Vayipol al tzavare Binyamin achiv vayevk » ou Binyamin bach al tzavarav. C'est dans le chapitre 45, verset 14. Il y a Yosef se jeta sur le cou de Binyamin et se mit à pleurer. Et Binyamin, lui aussi, se mit à pleurer sur le cou de Yosef. Des retrouvailles émouvantes, certes, mais nos sages, dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Megillah, voient dans ces retrouvailles et dans ces pleurs quelque chose de plus significatif. En effet, le Talmud nous dit que Yosef se mit à pleurer pour une tragédie qui aura lieu sur le terrain de Binyamin. Yosef, en voyant Binyamin, prophétisa sur deux événements. La destruction des deux temples de Yerushalayim qui font partie du territoire de Binyamin. La ville de Jérusalem se trouvait sur le territoire de Binyamin et qui serait détruit. Et c'est pourquoi Yosef se mit à pleurer. Binyamin, pour sa part, pressentit que sur le territoire de Yosef, la ville de Shiloh, il y aurait aussi une tragédie, puisque à Shiloh fut édifié le Mishkan, le tabernacle, pendant des centaines d'années, et il fut lui aussi détruit. Et pour cette destruction, Binyamin se mit à pleurer. C'est donc ainsi qu'il faut lire le verset. Yosef se jeta sur le cou de Binyamin pour pleurer sur la tragédie, sur les tragédies qui prendront place dans les territoires de la tribu de Binyamin. Et Binyamin se jeta sur le cou de Yosef et se mit à pleurer en prenant conscience des tragédies, de la tragédie qui aura lieu dans le territoire de la tribu de Yosef, la destruction du Mishkan Shiloh. Ce récit est extraordinaire, profond, plein d'émotions, ses retrouvailles, ses prophéties. Pourtant, une question se pose. Comment cela se fait-il que Binyamin et Yosef se soient mis à pleurer pour le malheur de l'autre? Il est clair, en effet, que c'est totalement justifié. Mais comment se mettre à pleurer sur les malheurs de l'autre alors qu'on est conscient de ses propres malheurs? Pourquoi n'ont-ils pas pleuré, au moins sur leurs propres problèmes? Et c'est quelque chose de totalement naturel. Pourtant, le verset et nos sages ne nous indiquent pas que Binyamin ou Yosef se soient mis à pleurer sur leur propre tragédie. Ils ne s'inquiétèrent par leurs pleurs que du malheur de l'autre. De plus, plus tard dans le chapitre 46, nous pouvons lire les retrouvailles de Yosef avec son père Yaakov. Et là, le verset nous dit « Vayipol al tzavarav, vayevk al tzavarav od » Yosef se jeta sur le cou de Yaakov, il pleura encore. Pour quelle raison Yosef a-t-il pleuré à ce moment-là? Il est vrai que ce moment devait être certainement un moment plein d'émotions, un moment de retrouvailles entre un fils qui n'a pas vu son père pendant 22 ans. Mais, pour nos sages, ces moments, si la Torah nous les raconte, ont une signification plus profonde. Et c'est pourquoi le Zohar nous dit que les pleurs de Yosef concernaient la destruction des Bat Hamikdash, des temples. Encore une fois, Yosef pleure pour la destruction du temple et pour l'exil. Et là, on peut se demander encore une fois une question. Le verset ne nous indique pas que Yaakov se mit à pleurer. Seul Yosef pleure au moment des retrouvailles. Comment est-ce possible? Nos sages répondent à cette question en disant que Yosef se mit à pleurer parce qu'il prit conscience de la destruction des temples. Mais Yaakov ne pouvait pleurer parce qu'il était occupé à ce moment-là. Au moment de la rencontre, il était occupé à lire le schéma. L'instant précis auquel il fallait lire le schéma ce matin était arrivé. C'est pourquoi Yaakov était en pleine lecture du schéma et ne pouvait s'arrêter pour d'autres occupations. Il y a donc, a priori, que Yosef qui pleure puisque Yaakov est occupé. Néanmoins, une question se pose. Comment est-ce possible que Yaakov ait pu trouver la quiétude, la tranquillité nécessaire à lire le schéma, alors que son fils prophétise sur la destruction des deux temples? Lui aussi, certainement, son état de prophète a vu la destruction de ces deux temples. Et lui ne réagit pas, lui ne pleure pas. Comment cela est-il possible? En fait, nous allons redéfinir l'état, la situation dans laquelle une personne pleure, l'intérêt de ses pleurs, et redéfinir ce que nous pouvons faire pour l'autre au moment où nous le voyons dans la détresse. En fait, généralement, lorsqu'une personne pleure, elle le fait pour se soulager, pour se sentir un peu mieux. C'est pourquoi on constate que lorsqu'une personne pleure, quelque chose qui la trouble, il est vrai, les pleurs ne changent rien à la situation. Ils n'ont pas amélioré la situation. Pendant le moment où il pleure, il n'a pas agi. Pourtant, la personne se sent beaucoup mieux après avoir laissé ses sentiments s'exprimer, après s'être laissé emporté dans l'expression de sa peine. Il est clair que lorsqu'une personne a les moyens de résoudre le problème qui lui cause tant de peine, a le moyen de construire quelque chose, de réparer, alors les pleurs sont superflus ou même déplacés. Mieux vaut agir que de se mettre dans une situation de pleurs. Le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel de Lubavitch, disait « Une action vaut mieux que 1000 soupirs. En quoi bon les soupirs alors que tu peux agir ?» Ainsi, lorsqu'une personne est témoin de la décadence spirituelle de son prochain, de la destruction du temple qui est dans le cœur de son prochain, car effectivement la vie de chacun de nous représente un sanctuaire, alors s'il a un sentiment pour l'autre, s'il tente d'appliquer le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même », alors comment rester insensible, indifférent à la peine de son prochain? Lorsqu'on voit son prochain peiner, on pleure. On peut effectivement, si on est véritablement son ami, le soutenir moralement et même prier pour lui. Mais il faut savoir que l'issue de cette impasse ou de ce passage difficile dans la vie de son prochain ne dépend que de lui-même, de son prochain, et de sa volonté de se reconstruire. Personne ne saura construire la vie de l'autre si l'autre ne se prend pas en main. Mais lorsque une personne a pris conscience que de son côté, elle a tout fait pour aider son ami moralement, et que son ami reste tout autant désespéré. En effet, si on l'aime véritablement, il ne reste plus qu'à pleurer. Ça, c'est pour le problème que nous retrouvons chez l'autre, mais pour soi-même, pour sa propre destruction. Si on prend conscience d'une décadence, d'un pas en arrière, d'un retour sur ses pas, que doit-on faire ? Alors rien ne sert de se cacher derrière de chaudes larmes. À ce moment-là, chaque personne qui prendrait conscience d'une tragédie intérieure, spirituelle, il faut qu'elle agisse, il faut qu'elle change, il faut faire tchouva, il faut s'améliorer dans le service de Dieu. Au contraire, s'ils se mettent à pleurer, les pleurs pourraient avoir un effet négatif. Parce qu'il donnerait l'impression à la personne qu'elle a déjà tout fait. Les pleurs pourraient alors donner une bonne conscience. Ça y est, j'ai pleuré, je me sens bien. Combien de personnes, après avoir pleuré, oublient véritablement que le problème n'a pas changé et ils pensent avoir réglé les choses. Revenons à notre histoire. Yosef, Binyamin, se retrouvent. Chacun pleure pour la destruction du temple de l'autre. Yosef pleure pour la destruction des Bat Emigdash qui se trouveront à Jérusalem, à Yerushalayim, sur le territoire de Binyamin. Et Binyamin pleure pour la destruction des temples qui se retrouveront sur le temple du Mishkan qui se retrouvera à Shiloh sur le territoire de Yosef. Mais ils ne pleurent pas pour leur propre Mikdash qui se détruit. Binyamin ne pleure pas pour les deux temples. Yosef ne pleure pas pour le Mishkan Shiloh. Pourquoi ? Parce qu'ils comptent s'en occuper eux-mêmes. Ils sont certains que pour tenter d'annuler le décret divin, il faut que chacun améliore d'une manière significative, ou s'améliore d'une manière significative dans le service de Dieu. C'est à eux-mêmes de reconstruire à l'intérieur de leur cœur d'abord le sanctuaire, afin que celui-ci ne soit pas détruit physiquement. Alors pour leur propre temple, il n'y a pas de place aux pleurs. Il faut agir. C'est pourquoi, au moment de la retrouvaille de Yosef et de Yaakov, Yosef pleure naturellement sur les temples qui seront détruits et qui ne sont pas sur son territoire. Il est déchiré de cette peine. Par contre, Yaakov, lui, trouve déplacé de pleurer à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il est le père de toute la nation d'Israël. Pour lui, il n'y a pas de temple qui est sur le territoire de Binyamin et l'autre qui est sur le territoire de Yosef, car tous ces territoires appartiennent à Yaakov. Il est le père de toute la nation d'Israël. C'est pourquoi le problème de ses enfants, c'est son propre problème. Nul n'est moment de pleurer pour un personnage comme Yaakov. Parce qu'il prend conscience que le problème de la destruction des temples dépendra de lui, de son action. C'est pourquoi, précisément, il se lance dans une lecture, dans une prière, dans une récitation du schéma qui permet de s'attacher à Dieu, de faire à ce que la divinité soit plus manifeste dans le monde en prononçant cette profession de foi dans laquelle il est dit « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad » dans laquelle nous manifestons et nous réclamons que l'unicité de Dieu soit manifeste en ce monde. Tout cela est l'antithèse de la destruction et l'antithèse de la dissimulation du divin et de l'exil. C'est ainsi que Yaakov, conscient du malheur de ses enfants, avant même que celui-ci arrive, essaie de reconstruire, essaie de guérir les maux des plaies qui touchent ses enfants, car ce sont ses véritables problèmes à lui. Aujourd'hui, nul n'est moment, à la veille de la Géoula, de pleurer. C'est le moment de lever la tête, d'agir, de construire à l'intérieur de nous et dans le monde, un monde différent et meilleur, pour que bientôt, le Bet Amigdash, le troisième Bet Amigdash, sera à nouveau à Yerushalayim, Yehi Adonai, Morenu, Rabbeinu, Melech, HaMashiach, Lolam Veit.